Nous sommes le 1er novembre 1974 à Rome. Jacques Lacan ne parle pas pour le grand public, il s'adresse aux membres de ce qu'il appelle « mon école », l'école freudienne de Paris. C'est un anniversaire, car il a créé cette école 10 ans auparavant. Celle-ci regroupe alors quelques centaines de praticiens et d'intellectuels qui suivent régulièrement l'enseignement qu'il dispense toutes les semaines à son séminaire. Lacan n'a pas annoncé de thème, il a seulement donné un titre énigmatique, mais que les initiés savent déchiffrer, la troisième. C'est en effet la troisième fois qu'il prend la parole à Rome. La première, c'était 20 ans plus tôt, en 1953. Il y présentait son rapport sur la fonction de la parole et le champ du langage. Le texte est resté dans les annales. C'est alors que Lacan est devenu Lacan. Il introduisait deux idées forces qui n'ont pas cessé depuis d'exercer leur influence dans la psychanalyse et dans la culture. La première de ces idées, c'est que l'inconscient que Freud a découvert est en fait structuré comme un langage où se distinguent le signifiant et le signifié. Pour chacun, son inconscient est un discours qu'il reçoit, émis par un autre, un partenaire intime, inconnu, sans visage, l'autre avec un grand A, qui agite le sujet au sein même de son identité à lui-même, un autre qui pense dans le sujet pensant, là où celui-ci ne peut plus dire avec Descartes « cogito ergo sum, je pense donc je suis ». C'est le discours de l'autre qui se poursuit dans les rêves comme dans les symptômes. Seconde idée force, l'action psychanalytique repose sur la parole. C'est dans la parole qu'il faut chercher le ressort de l'efficacité de la psychanalyse. Parole de l'analysant qui ne décrit pas, qui n'a pas à être exact, mais qui demande, qui évoque dans le présent, élabore le passé et donne sens à l'existence en fonction du futur. Parole du psychanalyste, parole rare, qui scande et interprète. En 1953, mettre la parole et le langage au cœur de la psychanalyse, définir à partir de là le sujet, c'est un coup de tonnerre. L'accueil est enthousiaste. Lacan rayonne d'optimisme. Il sent qu'il a de quoi redonner un second souffle à une théorie qui stagne depuis la mort de Freud et à une pratique dont les effets commencent à s'amortir. La deuxième fois, il prend la parole à Rome en décembre 1967. La tonalité est inverse. Le pessimisme domine. Son titre le dit assez, « La psychanalyse, raison d'un échec ». Si lui n'a pas cessé d'avancer sur le chemin qu'il avait ouvert en 1953, Lacan doit constater qu'il est seul, qu'il n'a pas réussi à entraîner derrière lui l'ensemble des psychanalystes, et dans sa propre école, on s'essouffle, on veut rentrer dans le rang, abandonner la subversion qu'il prône, retrouver le confort de la routine. Il prévoit sombrement que les psychanalystes rendront les armes devant les impasses croissantes de la civilisation. Ce moment de pessimisme est vite surmonté. Vient la révolte de la jeunesse en mai 1968, qui, à ses yeux, lui donne raison, l'encourage à persévérer. Son école se range derrière lui, il ne dételle pas. Pour la troisième fois, à Rome, l'allègre vieillard, il a 73 ans, apporte du nouveau tout en soupirant. Vous allez donc entendre son discours tel qu'il fut prononcé à la tribune du congrès de l'école freudienne en 1974. L'argumentation en est difficile pour les spécialistes eux-mêmes. Il ne s'agit pas de tout comprendre, c'est impossible, mais il ne s'agit pas non plus de renoncer à comprendre. Il y a un effort à faire pour accueillir une pensée originale, vraiment surprenante, unique, qui a marqué le XXe siècle tout en restant encore pour une large part à découvrir et à déchiffrer. Lacan ne faisait jamais de concessions à ses auditeurs. « Je ne parle pas pour les idiots », disait-il avec superbe. Même lorsqu'on ne comprend pas, on est happé par un passage ou par un autre. Le ton est parfois emphatique, la voix est parfois brisée, le contenu est gai et grinçant tout à la fois. La vérité, dit Lacan, c'est horrible, mais c'est aussi plaisant. Il a devant lui des dizaines de pages écrites, il les lit, il les résume, il les saute. Il fait aussi des dessins au tableau. De temps en temps, nous ferons une pause pour mettre en place des repères logiques.